Radio Grand Ciel présente Bee Jazz, Soyez Jazz, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Patrick Durand et Gilles Secas ont choisi de nous faire partager leur goût en matière de jazz et pour ce faire, nous écouterons dans leur totalité la plupart des morceaux qui sont les plus emblématiques. Chers auditeurs, vous connaissez Patrick Durand, un médecin, pianiste de jazz, qui s'intéresse à l'harmonie et qui aime nous faire partager ses émotions avec les morceaux qu'il aime tout particulièrement. Vous connaissez également Gilles Secas, un journaliste passionné de jazz, qui grâce à sa guitare, nous fait vivre des moments, je dirais, exceptionnels. Gilles Secas, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Bonjour Patrick Durand.
Christiane Blain, bonjour.
Alors aujourd'hui, je crois que vous voulez évoquer pour nous Miles Davis, c'est bien ça?
Nous avons choisi effectivement, tous en cœur, Miles Davis, qui était un grand nom du jazz.
Alors quelques mots, il est né en 1926, le 26 mai très exactement, à Alton, dans l'Illinois, et il mourra le 28 septembre 1991 à Santa Monica, en Californie. C'est un grand compositeur, trompettiste de jazz, et il a commencé à jouer de la trompette à l'âge de 13 ans. C'est donc un génie, Gilles Secas.
Il a commencé très tôt et puis il a appris la musique. Et c'est un véritable musicien, influencé par les classiques, et notamment les classiques impressionnistes français.
On peut parler d'impressionnisme aussi en musique.
Ah bah oui, bien sûr.
Ah oui, bah oui. Vous m'ouvrez des horizons.
Oui, on fonctionne par petites touches.
Ah oui.
À la manière des peintres. Et ça a beaucoup influencé Miles Davis, mais beaucoup d'autres musiciens, tels John Coltrane, par exemple, ou Bill Evans, qu'on retrouvera avec Miles Davis. D'ailleurs, nous allons écouter tout cela tout à l'heure. On peut parler de Miles Davis et surtout d'un disque, d'un album que nous affections particulièrement, Patrick et moi, je crois, qui est l'album, je crois, de jazz le plus vendu au monde.
Ah, le plus vendu au monde.
Qui est Birth of the Cool. C'est l'album qui va permettre à Miles Davis d'imposer son style, ou en tout cas un style qui rompt un petit peu avec le style bebop, de Charlie Parker, avec lequel Miles Davis a commencé sa carrière. On va écouter Bublicity. Pour Bublicity et pour cet album qui a vu le jour en 1954 mais qui a été enregistré dès 1949, Miles Davis collabore avec l'arrangeur Gil Evans et il s'entoure, il va former un orchestre, un groupe qui est un groupe de 9 musiciens, un nonet. Mm-hmm. Et on va trouver à l'intérieur de ce nonet Max Roach à la batterie, Jerry Mulligan au saxophone baryton, Lee Konitz à l'alto, J.J. Johnson au trombone, et puis un corps d'harmonie qui est celui de Junior Collins et un tuba, Bill Barber. On écoute Bublicity.
Et on est en quelle année ?
On est en 1957 pour la première édition de l'album, oui. Mais en réalité, on est en 1949 pour l'enregistrement.
Ah, très bien.
Juste un petit mot pour bien préciser les choses. Birth of the Cool, le cool, c'est le style de jazz. Il voulait jouer cool, contrairement un petit peu à Parker, et son style, je ne veux pas dire désordonné, mais son style exubérant. C'est un style. Donc c'est la naissance d'un style de jazz, et ce disque-là est l'illustration de la naissance du jazz cool. Nous écoutons Bublicity.
Thank you.
Voilà, nous avons écouté Boplicity, dont je trouve l'arrangement merveilleux, et je recommanderais à tous ceux qui ne connaîtraient pas les doubles six ou qui connaîtraient peu les doubles six, cette formation française de chanteurs qui ont copié textuellement ces morceaux célèbres de jazz, je leur recommanderais donc d'écouter Boplicity, c'est-à-dire le morceau que nous avons écouté là, et leur interprétation. Avec, ils sont les double six, étaient six. Voilà. Écoutez ce qu'ils ont fait de ce morceau, c'est extraordinaire.
Excellente transition, Patrick, parce que il y a un pianiste avec les double six qui s'appelle René Urtreger.
Mortagnet.
Et qu'on va retrouver dans le morceau que nous allons écouter maintenant, qui est un extrait de la bande originale du film Ascenseur pour l'échafaud, le film de Louis Malle, 1957, avec Miles Davis à la trompette. René Urtreger au piano, Pierre Michelot à la basse, Kenny Clark à la batterie et Barney Whelan au saxophone.
On peut rappeler que nous avons fait l'an passé une émission justement sur ce film qui était vraiment remarquable.
Absolument.
Voilà, donc Miles en train d'improviser pendant que la bande du film Ascenseur pour l'échafaud passe avec des Français. Donc Miles venait souvent en France parce que la France aussi l'acceptait peut-être plus facilement. Il avait fait quand même quelques conquêtes françaises.
Juliette Gréco.
Par exemple.
Ah oui.
Et donc il venait assez facilement en France. Et c'est à l'occasion, c'est venu qu'il a fait ce petit enregistrement qui est un enregistrement inopiné, on va dire. Inopiné pour les circonstances ainsi que pour la musique, qui est une musique qui n'est pas écrite. Nous avons simplement des harmonies. Et donc avec des Français, dont un Français ces pianistes qui habitent à côté de chez nous et que nous sommes heureux de voir régulièrement et qui s'appelle René Utreger. Voilà.
Il joue lui-même près de Mortagne-au-Perche.
Voilà, que l'on peut entendre de temps en temps près de Mortagne-au-Perche, à Réveillon par exemple. Nous allons écouter prochainement, si vous voulez, I Fall in Love Too Easily, un morceau que nous aimons beaucoup avec Gilles et que nous avons la joie de,
avec moi aussi,
de jouer ensemble, si vous voulez bien. Donc,
pour la petite histoire, c'est un morceau composé par Jules Stein et puis Sammy Cahn en 1944 pour la comédie musicale Escale à Hollywood, Land Across the Way, et qui était chanté par Frank Sinatra.
I fall in love too easily. Je tombe amoureux si facilement. Voilà donc un petit morceau musical extrait d'une comédie musicale et qui est exprimé de façon très, très lente, très langoureuse par Miles Gilles, je crois.
Oui, bien entendu, on reconnaît Miles, sa trompette et la sourdine qui le caractérisent parfaitement. Ça date de 1963, c'est extrait de l'album « Seven Steps to Heaven ». Il est accompagné au piano par Victor Feldman, qui n'a pas laissé un grand souvenir dans le monde du jazz. George Coleman au saxo ténor et puis Frank Buller à la batterie et surtout Ron Carter à la basse, qu'on entend assez bien dans ce morceau lent, assez mélancolique.
Mais par contre, très typique de la sonorité de Miles.
C'est très typique de la sonorité de Miles. Voilà. Miles jouait peu de notes, comme on le sait. C'était pas un fan des triples croches. On reconnaît. On va écouter quelque
dans
chose.
Dans le même esprit, de la même sonorité, on va dire.
Absolument.
Dans la même sonorité, nous allons écouter autre chose. Là, on était sur la comédie musicale américaine. Et puis avec son arrangeur préféré, Miles a pu jouer dans le style hispanisant. Et je crois que ce style hispanisant, le style de flamenco, était une suite logique à cette tendance à jouer modal, à venir sur des accords un petit peu limités, des progressions très limitées.
Là, il est avec, il sort de sa collaboration avec George Russell, qui est le papa entre guillemets du modal. C'est-à-dire le modal, c'est-à-dire le jeu sur les modes et non pas sur les gammes.
Voilà.
Et il va être entouré quand même de d'un compositeur et un pianiste extraordinaire qui est Bill Evans.
Qui est Gil Evans?
Bill Evans.
Bill, pardon, excusez-moi. Oui, Gil Evans étant un grand arrangeur. Et
nous écoutons.
Et nous écoutons Flamenco Sketch. Donc, morceau très très connu. Voilà, nous allons abandonner ce morceau mélancolique pour dire que Miles s'est intéressé à beaucoup de choses. Il a suivi un petit peu les événements, parfois il les a précédés. Là, il a voulu faire de la couleur, il a voulu faire suivre les inspirations de son mélodiste, de son arrangeur, qui était très bien. Et là, nous avons une formation assez extraordinaire, Gilles, quand même.
Ah bah oui, nous avons donc Bill Evans, qui est le compositeur officiel du morceau, même si Miles Davis a contribué à sa composition. Bill Evans au piano, qui fait reposer le morceau sur 5 modes, hein, chaque mode faisant passer une émotion légèrement différente de la précédente. Et puis, en haut de la partition, ça c'est la légende qui le raconte, en haut de la partition, Bill Evans avait écrit manuscrit improvisé sur ces modes. Ce que font les musiciens, et parmi les musiciens nous avons John Coltrane, que nous n'avons pas entendu. Et
nous avons entendu le début.
Le début. Nous avons Julian Cannonball Adderley, Paul Chambers à la basse et Jimmy Cobb à la batterie. Et c'est tiré de l'album Kind of Blue, qui est l'expression parfaite de l'approche modale de Miles Davis.
Encore un album assez extraordinaire.
Absolument, oui.
De Miles. Avec une sonorité de Miles qu'on reconnaît, que même le néophyte doit reconnaître. Donc une sonorité légèrement cuivrée à cause de sa sourdine qu'il utilisait quand même beaucoup à cette époque-là en tout cas. Voilà, donc là vous avez une illustration quand même du jeu de Miles Davis assez caractéristique, mais qui était un petit peu planante.
On peut peut-être retrouver, puisqu'on ne l'a pas tellement entendu, on va retrouver John Coltrane, qui était l'un des saxophonistes fétiches, mais il y en aura eu d'autres plus tard, comme Wayne Shorter, n'est-ce pas, Christiane, dans une autre composition pour une comédie musicale, une composition de Richard Rodgers et Lawrence Hart, qui s'appelle « It Never Entered My Mind », et qui est extraite de l'album Working with the Miles Davis Quintet. On retrouve John Coltrane, Paul Chambers, Philip Joe Jones et une époustouflante trompette de Miles Davis.
Écoutons. Voilà encore un Miles assez classique qui fait toujours plaisir à entendre.
On a quand même noté l'introduction au piano de Red Garland qui amène tout doucement Miles Davis et sa trompette et sa sourdine.
Oui, le Miles qui était quand même pas facile, un homme pas facile à jouer. Nous autres pauvres petits musiciens.
On aime vous entendre.
Je veux dire, on aurait bien aimé jouer avec des personnages comme ceci. Le problème souvent, c'est que c'était des grands comme ça. Certains grands n'étaient pas faciles. Miles, même s'il était, si après il disait qu'il aimait bien jouer avec un tel, sur la scène, ça se passait jamais très très bien. Et si on voit des vidéos de l'époque, on voit bien le Miles qui laisse faire son qui n'écoute pas l'improvisation, contrairement à d'autres musiciens, qui n'écoutait pas l'improvisation de ses collègues, qui sortaient de scène ou qui tournaient le dos. Ça, c'est dommage sur le personnage.
Il a commencé à tourner le dos au public dans les années 70, c'est un petit peu plus tard. Moi j'ai eu la chance, le bonheur de le voir en 71 au Palais de Chaillot lorsqu'il a fait sa tournée européenne. Effectivement, il avait ses grosses lunettes de soleil qui lui couvraient le visage, des lunettes de ski, et il tourne le dos au public. Alors on lui a reproché, il a répondu dans un orchestre classique, vous voyez jamais le chef tourner le dos à ses musiciens. Donc il faisait la même chose. Bon, est-ce que c'était un prétexte? Est-ce que c'est une façon de répondre? Pourquoi pas?
Voilà, personnage intéressant.
Un personnage intéressant, oui.
Nous allons écouter un morceau un petit peu plus, comment dirais-je, soutenu, Strings and Chaises, un morceau que l'on joue beaucoup dans le Perche.
Oui, donc c'est...
Je jouais à Réveillon.
On joue à Réveillon, absolument, par exemple.
Donc, chers auditeurs, vous pouvez l'écouter à Réveillon, un petit village à côté de Mortagne-au-Perche. Profitons-en pour en parler.
Alors, cet extrait de l'album, qui date de 1958, et c'est un blues en si bémol de Thelonious Monk. Et c'est le premier quintet de Miles Davis, hein, qui devient d'ailleurs sextet parce que Cannonball Adderley va se joindre à la formation.
Straight No Chase. Voilà une composition de Monk. Monk qui a joué, comme tous les grands musiciens, qui a joué avec Miles Davis.
Il a joué avec Miles Davis, il a joué avec Charlie Parker, tout comme Miles Davis d'ailleurs. C'était l'un des promoteurs du style bebop. Ouais,
on est sur un style un petit peu plus classique et traditionnel. Christiane, je pense que vous allez nous faire une conclusion sur cette démonstration des différents styles de Miles. Un Miles qu'on le reconnaît très bien sur la fin de sa vie.
Oui, il y a des dates importantes. Moi, je citerai donc 1986 avec Tutu, qui est composé par Marcus Miller pour la Warner Bros. Et d'ailleurs, il enchaînera avec une production de presque un album par an. Et puis 2006, il introduit dans le Rock and Roll Hall of Fame quelque chose, c'est encore une nouvelle date pour lui. Alors, chers amis auditeurs, j'aimerais que vous nous retrouviez le mois prochain pour le Duke Ellington, Edward Kennedy Duke Ellington. Et je vous remercie, Patrick Durand et Gilles Secasme, pour cette belle émission. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr.
Christiane Blain, merci.
Merci, Christiane Blain.